Bazooka!
De l'autre côté du Charco, une émission inspirée du livre du même nom. El Monstro, le monstre, Ciudad de México mérite bien son surnom. 22 millions d'habitants, sans compter les invisibles, les âmes perdues dans une mégapole prête à imploser. Premier contact avec la ville depuis le ciel. Derrière le hublot, Mexico n'est qu'un ruban de lumière qui se déploie presque à l'infini. Au sol, elle est encore plus intimidante. Ciudad de Mexico fourmille de mille espoirs, déborde de mille peines. Dense, intense, elle ne laisse personne indifférent. Parce que les cris sur les murs, les visages fatigués, les sourires discrets et mille petites touches poétiques donnent une autre couleur. Une certaine douceur à cette ville infernale. Et presque malgré soi, le charme opère.
Arras de la noche rala, casanga del triste día, mientras muy cerca de Talpa 40 gentes morían, venían de ver a la Virgen, según el radio anunció. Y como para reírse, la muerte los persinó. Sanates, oya, sanates, que hambre de la sin razón.
Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue dans Djiboutique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on est parti en voyage déjà avec ce petit extrait de musique, extrait aussi de texte. Aujourd'hui, eh bien, dans Djiboutique, on vous présente un livre. En fait, c'est une émission à partir d'un livre. Un livre qui s'intitule « De l'autre côté du Charco ». Un livre avec des textes et des photos et un livre qui nous promène au Mexique. On va vous parler de ça aujourd'hui. Alors, je suis avec Stéphanie. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir Émeric.
Tout va bien ?
Oui, très bien.
Ok, bah alors on va entamer notre voyage si tu es prête.
Ah, tout à fait prête. C'est vraiment un livre qui m'a permis de découvrir la Mexique, donc on y va.
Ok, super. Alors on a Hubert à la technique aujourd'hui et puis on vous emmène en voyage. Alors un livre donc qui en fait parle de différentes situations au Mexique, qui commence dans la ville du Mexique et qui se dirige vers le sud, vers d'abord l'état du Guerrero et puis ensuite l'état de Oaxaca pour finir au Chiapas. Donc c'est un petit peu le fil du livre qu'on va suivre. Et en faisant évidemment quelques arrêts quand même. Et donc, la première destination, enfin, le point d'arrivée, c'est Mexico. On y est encore et on va assez vite quitter Mexico avant, après encore ce petit extrait qu'on va vous passer, donc extrait du livre De l'autre côté du Charco. Bienvenue à tous dans Djiboutique.
Ciudad de México est aussi une ville sordide, avec son métro plein comme un œuf où des milliers d'âmes s'entassent et s'écrasent. Dehors, l'air est tout aussi irrespirable. À chaque coin de rue, des femmes et des hommes à même le trottoir, endormis sur leur carton de souffrance. Ces mutilés de l'espoir n'ont plus qu'une jambe ou un bras comme seul lien avec le monde. Leurs moignons réclament plus qu'une aumône et ne récoltent que de l'indifférence. Des milliers de zombies habillés de misère et de rêves fracassés. Des exilés, des indigènes sans terre, des femmes en fuite, des enfants sans enfance. Une véritable armée de sans nom, de sans visage. El Monstro, oui, Ciudad de México mérite bien son surnom. Excessive et sublime à la fois, tragique et merveilleuse à chaque seconde. Un seul conseil, ne jamais s'y éterniser, être seulement de passage, au risque sinon de s'y faire dévorer.
Voilà donc un second extrait de ce livre De l'autre côté du Charco, dont les auteurs sont Vero Traba, donc pour l'écrit, et Pachi Belsaiz pour les photos. Alors, on a eu l'occasion d'interviewer Pachi par téléphone, donc on écoutera Pachi à différentes occasions au cours de l'émission. Ce sera une émission dont le premier volet aura lieu aujourd'hui et le suivant la semaine prochaine dans Djiboutique. Voilà donc pour la Ciudad de Mexico qui, comme vous l'avez compris, n'a pas spécialement retenu les auteurs du livre puisqu'ils se sont dirigés assez rapidement vers l'extérieur et notamment vers Ciudad Nezahualcóyotl, une espèce de grosse banlieue de Mexico. Enfin, quand on parle de Mexico, la banlieue, c'est tout de suite 1 million d'habitants, enfin cette banlieue-là en tout cas. Donc c'est un endroit avec des gens qui sont venus travailler d'un peu partout au Mexique et qui petit à petit ont construit cet endroit. Hein. Et donc ce qui est amusant, c'est que Vero donc, nous parle de cet endroit comme évidemment une banlieue d'une ville, endroit de travail, on est dans la nécessité et ne décrit pas tellement enfin les maisons, etc. Il y a pas, c'est à flanc de colline puisque bon, au Mexique, cet endroit-là, c'est très montagneux, hein, le centre du Mexique. Mais ils ont rencontré quelqu'un là-bas, Jonathan, qui est un poète. Et d'ailleurs, elle nous dit, elle écrit que dans un endroit comme ça, finalement, ils sont tous un peu poètes. Il faut trouver une manière d'habiter ce genre de lieux qui ne sont pas, a priori, les plus agréables pour les questions d'urbanisation, évidemment, très, très fortes. Et donc, il rencontre Jonathan, qui est un poète, donc, et dont on va vous lire un petit extrait d'un de ses recueils. Celui-ci est intitulé Jonathan Ruiz Suicidatarios. Donc voilà, c'est bien Jonathan Ruiz. Et le poème que je vais vous lire, d'abord en espagnol, puis je ferai une petite traduction en français, s'intitule La luz de los orgasmos, la lumière des orgasmes. Ok, j'y vais en espagnol donc. Que la muerte sea un tratado de erotismo. Que venga hasta nosotros como un infarto de caricias. Que nos lleve entre sus manos para llegar a la luz de los orgasmos. Que siembre las flores en los caudales de nuestra espalda. Que nos bendiga siempre antes de sumergirnos en la imaginación. Que sean sus piernas el camino hacia la vulva de la tierra. Que guarde los placeres de la carne en el deseo de las bugambilias. Que sea la muerte nuestra mejor forma de alcanzar la ovulación. Petite traduction en français, donc, pour la lumière des orgasmes. Donc, que la mort soit un traité d'érotisme, qu'elle vienne jusqu'à nous comme un infarctus de caresses, qu'elle nous emmène entre ses mains pour arriver à la lumière des orgasmes. Qu'elle sème les fleurs entre les vallées de nos épaules, qu'elle nous qu'elle nous bénisse souvent avant de nous submerger dans l'imagination et que ses jambes soient le chemin jusqu'à la vulve de la terre. Qu'elle garde les plaisirs de la chair dans le désir des bougainvilliers. Qu'elle soit la mort, notre meilleure manière d'obtenir, d'arriver à l'ovulation. Voilà donc un extrait de l'œuvre de Jonathan Ruiz, ce poète donc que les auteurs du livre de l'autre côté du Charco rencontrent une fois qu'ils ont quitté Mexico et qu'ils arrivent à Ciudad Nezahualcóyotl. Alors, comme je vous disais, on a eu l'occasion d'interviewer Patxi Beltzaiz et il nous a expliqué justement, bon, par rapport à ce titre qui, pour certains, peut paraître un petit peu énigmatique. Et donc, la question porte autant, finalement, sur le titre du livre que, et sur la manière dont ils ont voyagé, puisque c'est un livre de voyage. Hein. Mais voilà, quel genre de voyage ? Faire un livre de 100 pages, hein, je crois, au moins, voire plus, presque 200 ?
300.
300, merci Stéphanie. Un livre de 300 pages, mais c'est pas dans n'importe quel type de voyage qu'on peut être amené à produire un livre comme ça. Donc, on a posé cette question-là à Patxi, autant bah, quel genre de voyage, et aussi, eh bien, qu'est-ce qui les a poussés à faire ce livre ?
L'idée, c'était qu'on passait par des endroits, on y passait, on y repassait, mais en fait, en vrai, on y restait un certain temps et on ne s'y établissait pas. Et en même temps, on voulait un peu le différencier du voyage qui est vraiment un passage un peu sans futur, en tout cas, qui appelle pas forcément le retour et qui sont souvent peut-être des passages aussi un petit peu plus brefs, quoi. En fait, il faut savoir qu'à la base, on avait un blog, enfin, on a toujours un blog qui s'appelle aussi De l'autre côté du Charco. Au début, on avait mis en place surtout pour garder un peu un lien. À l'époque, on habitait à Marseille, donc c'était. Et très lié aussi à des relations qu'on avait avec des copains et des copines de Marseille qui ont été au Mexique, qui continuent à y aller aussi, certains, comme Georges par exemple. L'idée c'était aussi un petit peu de garder un peu le lien entre ce qu'on faisait là-bas par rapport aux gens ici. Ça c'était un peu l'idée du blog au départ. Et puis bon, au fil du temps, le blog s'est quand même un petit peu étoffé, on va dire. Mais il y a plusieurs personnes, oui, en fait, qui suivaient le blog et qui. À un moment donné, nous ont dit, bah, je crois que vous commencez à avoir un peu de matière peut-être pour faire un bouquin, et ça pourrait être pas mal, quoi.
Alors, donc, un premier extrait de Patxi, et bah, j'insiste un peu, je souligne, puisque la question demandait par rapport à une des appellations qu'ils avaient voulu donner à ce livre, carnet de passage, en quelque sorte. Bon, finalement, ça n'est pas apparu sur la couverture du livre. Mais voilà, ça aurait pu. Et leur idée, c'était de dire que, voilà, vu qu'ils allaient repasser dans ces endroits plusieurs fois, eh bien, c'était du contenu un petit peu plus étoffé, idéalement. Et c'est vrai que ce livre, qui, je l'ai dit, évidemment, est assez important, mais comporte des textes, mais aussi des photos qui témoignent de la réalité au Mexique, eh bien, voilà, on est quand même, évidemment, amené à s'intéresser à ce pays. Je crois que Stéphanie, même, l'a découvert via les photos, d'une certaine façon.
Hein. Oui, en effet, c'est vrai. Je dois avouer que je ne connaissais pas grand-chose sur le Mexique. Maintenant, ça me donne très envie d'y aller. Et voilà, donc mes interventions pendant cette émission ne seront donc pas de la part d'une personne qui connaît, mais d'une personne qui découvre et qui a découvert grâce au livre.
Excellent. Et donc, c'est vrai qu'on est amené à découvrir des endroits avec des fêtes, des cérémonies, mais aussi des endroits où il y a eu des choses assez graves, tragiques qui se sont passées. Il y a, à travers le livre, un regard sur cette réalité qui concerne le Mexique. Et donc voilà, on va vous parler de tout ça. Et après cet arrêt dans les banlieues de Mexico, on va se diriger vers le premier état qui est investi par ces voyageurs et qui s'intitule le Guerrero. Avant ça, on fait une petite pause musicale. Alors notre sélection, notre discothèque a été alimentée par notre ami Hubert qui va peut-être nous dire un petit mot sur ce premier morceau, Mexico Institute of Sound.
Alors écoute, Émeric, c'est pas tout à fait dans l'ordre dans lequel je les avais mis. Hein. Moi, je t'avais parlé de l'imaginaire du Mexique que je pouvais avoir avant d'y aller moi-même au Mexique. Ici, il s'agit d'un groupe de Mexico, donc de la capitale, avec un son très moderne. Ils existent depuis une quinzaine d'années et ça donne l'envergure et l'ouverture de la musique dans la ville de Mexico, puisque ça s'est influencé par la cumbia mexicaine, mais par plein de sons occidentaux, européens et africains. Tout ça est mélangé donc avec le groupe Mexican Institute of Sounds. On écoute ça.
El Chapo, tus hijos ya son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México. Estado fallido, campeón. Orgullosos patios traseros al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba al sonoro rugir del cañón.
Premier extrait musical, donc vous avez remarqué, voilà, comme on l'a dit, on est dans un Mexique assez international. D'ailleurs, j'avais même l'impression que le chanteur n'était peut-être pas mexicain, il avait un léger accent comme ça américain. Voilà, on vous en dira peut-être plus sur ce groupe ultérieurement. Donc on entre avec un petit extrait sonore dans l'état du Guerrero.
Dans le Guerrero, il n'y a plus d'état de droit. Autrefois, tout le monde venait flâner à Chilapa, connu pour son marché d'artisanat. Aujourd'hui, les rues sont désertes, sous la coupe de deux bandes criminelles, Los Rojos et Los Ardillos, qui se livrent une guerre sans merci. Même les écoles ont fermé, comme dans d'autres villages des alentours. Plus de 600 écoles en tout, près de 62 000 élèves. Pendant ce temps, les affaires et l'argent sale circulent en toute tranquillité.
Un extrait donc lu de ce livre de l'autre côté du Charco qui nous amène donc au Guerrero, un état qui évidemment n'est pas hyper touristique. Et d'ailleurs, les auteurs du livre y sont arrivés par des connaissances. C'est parfois bien au Mexique quand on voyage de se faire accompagner, du moins pour aller dans certains endroits comme le Guerrero. Et eux en fait sont allés pas très loin de la capitale, donc Chilpancingo. Et ils sont restés dans une petite communauté qui s'appelle la CIPEC. Alors, le Guerrero est connu pour le trafic, la présence de gangs. C'est une réalité du Mexique, pas de tous les États, mais en tout cas du Guerrero. Et pourquoi ? Parce qu'on a notamment des cultures d'amapola, donc cette fleur de pavot avec laquelle on produit l'héroïne. Mais aussi, il y a évidemment des transports de cette drogue vers les États-Unis, parfois dans des cachets, dans des bus de ligne qui font les liaisons Guerrero-Mexico et qui après continuent vers le nord, les États-Unis. Donc c'est un État assez chaud pour ces raisons-là, mais aussi si on lit d'autres sources, on tombe sur des informations comme par exemple l'existence de mines qui sont exploitées par de grandes entreprises canadiennes et qui parfois n'hésitent pas à avoir des polices privées pratiquement pour encadrer les travailleurs et monopoliser en gros la vie dans les campagnes, puisque c'est elles qui font la loi, quoi. Donc voilà de quoi est fait le Guerrero, mais cette question des mines, il faut savoir que ça, par contre, c'est pas que au Guerrero, ça se produit aussi dans d'autres endroits. Le Mexique étant un pays énorme et hyper riche, il y a toujours des gens et des compagnies qui peuvent être intéressés d'essayer d'aller extraire des richesses dans ce pays. C'est pas nouveau, c'est historique, quoi, hein. Donc, de quoi va-t-on parler ? Qu'est-ce qui s'est passé au Guerrero dans les années récentes, quand même ? Un massacre, celui des étudiants d'Ayotzinapa. Et donc, c'est une partie de ce que les auteurs développent dans ce livre. Stéphanie, je crois que tu as eu le temps de jeter un petit coup d'œil à ce passage.
Oui, en fait...
Tu veux bien nous rappeler...
C'est ça. Donc, ce massacre a un peu fait la une en 2014, parce qu'il était extrêmement violent. Donc, le 26 septembre 2014, à Iguala, donc dans cet état du Guerrero, 80 étudiants de l'école normale rurale de Paulo Isidro Burgos, donc Ayotzinapa, se sont emparés de plusieurs bus en fait pour participer à la commémoration d'un autre massacre qui avait lieu en septembre 68 à Mexico City. Et donc là, en septembre 2014, ils veulent partir avec leur bus et ils sont encerclés par la police municipale qui tire sur eux. Ils ne comprennent pas, ils s'assemblent dans une salle et plus tard dans la soirée, ils sont à nouveau encerclés et on tire à nouveau sur eux. Et cette fois-ci, c'est du très sérieux parce que pendant 40 minutes, ça n'arrête pas de tirer. Et en fin de compte, il y a 6 morts, 25 blessés et 43 personnes disparues, étudiants disparus. Et ce chiffre 43, depuis lors, on le rencontre souvent, apparemment, au Mexique, parce que c'est un petit peu devenu le symbole de ce massacre qui n'a toujours pas été résolu. Enfin, on n'a jamais trouvé les vrais coupables, et c'est pour cause, parce que il faut savoir que ces écoles normales rurales dont émanaient les étudiants sont une institution très, très importante au Mexique. En fait, cela permet aux jeunes hommes, notamment, à devenir maîtres d'école. Donc, c'est souvent des fils de paysans ou d'ouvriers qui sont donc censés de devenir maîtres d'école pour les régions les plus reculées. Et j'ai trouvé ici dans ce livre une citation qui éclaire un peu le rôle de ces écoles normales. Donc, c'est un homme d'église, Alejandro Solalín de Guerra, qui dit « Il est certain que les étudiants des écoles normales ont toujours dérangé. Ils sont comme une pierre dans la chaussure. ces garçons vont à l'encontre du modèle néolibéral que le gouvernement veut implanter. Et comme ils s'y opposent, le gouvernement souhaite les voir disparaître. Donc, on doit vraiment partir de l'idée que le gouvernement a été impliqué, d'autant plus qu'on n'a jamais trouvé la vérité. Il y a une version officielle d'après laquelle voilà, c'était les cartels de drogue qui les auraient simplement tués, comme c'est un petit peu leur manière de faire. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Donc, il pourrait y avoir eu un aspect de drogue, en effet, mais l'État aurait aussi éventuellement voulu partager le butin avec les cartels. Et donc, il y avait aussi très probablement cet aspect politique dont cet homme religieux là, a parlé dans la situation. Et donc, bon, c'est il y a 8 ans, mais depuis tous les 26e du mois, il y a des manifestations. Les parents des disparus ne finissent pas de réclamer la vérité et à ce qu'enfin on fasse des véritables investigations. Aussi pour évidemment, idéalement, retrouver les corps pour pouvoir faire le deuil. Et donc à ce mouvement des parents se sont joints de nombreuses autres personnes. Enfin, je pense qu'il s'agit de manifestations entre 10 et 10 000 personnes régulièrement dans le pays, quoi.
Mais oui, et donc en fait, les auteurs sont allés dans pas très loin de la capitale, donc Chilpancingo, Iguala, où a eu lieu le massacre, se situe aussi pas très loin de cette capitale. Entre les deux, en fait, il y a une communauté qui s'appelle la CIPEC, et qui est une communauté qui s'est créée politiquement, mais d'abord pour résister à cette ambiance de terreur qui règne dans l'État du Guerrero, et donc en créant notamment des polices communautaires, donc des gens qui sont formés par un village, qui sont désignés pour défendre les gens du village, en quelque sorte, hein, des polices communautaires. Et donc ça, c'est un des aspects qui a réuni un petit peu les gens de cette communauté CIPEC, donc qui se trouve en haut d'une colline. Hein. Il y a plusieurs photos qui nous décrivent cette communauté dans le livre, puisqu'on vous l'a dit, il y a énormément de photos. C'est un livre de textes et de photos. Et donc, encore un mot sur cette CIPEC. Ben, parce que je demandais s'il y avait des liens avec d'autres mouvements au Mexique. Pas spécialement, on va dire. C'est vraiment une communauté qui s'est engagée plutôt au niveau local, qui a évidemment connecté avec les parents des disparus d'Ayotzinapa et qui les a soutenus dans leur combat. Mais c'est aussi donc une communauté qui fait partie du Conseil national indigène, qui est là quelque chose qui a été initié par les apatistes. Donc on avait pensé parler un petit peu de ces photos, hein, puisque on a une description visuelle là, de cette communauté. On a une première photo donc, où on voit la rue qui amène à la communauté, qui est une montée. Et d'ailleurs, l'auteur des lignes, page 59, l'auteur des lignes, Stéphanie, l'auteur des lignes, dit que voilà, à chaque fois qu'on revenait dans cette communauté, il fallait monter cette montée, c'était fatigant, etc. Hein, mais arrivés en haut, eh ben, ils sont quand même bien accueillis et avec beaucoup de chaleur, évidemment, comme on a le sens de cet accueil au Mexique. Et donc, on a des maisons qui sont réparties sur un petit territoire en haut d'une colline. Et une des photos, ben, nous montre une maison avec des figures, des profils de personnages qui sont en fait des peuples préhispaniques. Hein. On reconnaît le genre de chapeau avec des grandes plumes. Et puis bon, il y a un arc-en-ciel, il y a le globe terrestre qui est dessiné. Et il y a un côté un petit peu dramatique quand même à la scène. D'une part, il y a un de ces hommes qui tient aussi un livre où on comprend que ce sont des connaissances qui sont réunies, hein, un codex, comme on les appelait à l'époque. Et de l'autre côté, il y a un cheval qui arrive. Et voilà, on comprend que ça rejoue un petit peu la scène de l'arrivée des Espagnols. Et c'est vrai que dans beaucoup de communautés, évidemment, bah, ce passé, finalement, est assez présent. Cette espèce de blessure qu'a représenté la conquête pour les peuples préhispaniques. Et donc, en fait, ce qui est décrit ici, et dans d'autres endroits par des photos, il y a un autre endroit, notamment, où on voit une sorte de petite hutte comme ça où on peut rentrer par un passage qui fait à peu près la moitié d'une personne, au nombril, on pourrait dire. Il faut donc vraiment s'accroupir pour rentrer là-dedans.
Ça ressemble à un bunker plutôt, c'est en béton.
Oui.
Tu dis hutte, mais ça fait un peu... Mais...
C'est un vieux bunker.
D'accord.
Ancien, préhispanique.
C'est ça.
Ben, disons que oui, il a été construit avec des techniques modernes et le béton, ben, ça fait partie des choses assez pratiques. Mais en fait, c'est un endroit qui sert à une cérémonie traditionnelle qu'on appelle le temazcal, qui est en fait un bain de vapeur et qui en réalité, pour les peuples préhispaniques, ben, représentait comme une espèce de retour à l'utérus. Donc, quand on fait cette cérémonie, c'est comme, en fait, essayer de renaître. C'est un peu l'idée de ce temazcal. Et d'ailleurs, il y a d'autres photos ici qui nous montrent quelqu'un qui est en train d'être embaumé par de l'encens. Hein. Dans ce genre de cérémonie, on utilise de l'encens. Et voilà, c'est vraiment une cérémonie spirituelle.
Et oui, et sur ce bain de vapeur, en fait, sont aussi du murales, en fait. Il y a déjà des peintures, on en parlera plus tard, plus en détail, parce que c'est vraiment quelque chose qui, apparemment, est très répandu au Mexique, les fresques murales.
Oui, bah ici, donc, sur le bain, on représente Quetzalcoatl, qui est donc un dieu, un élément mythologique très important pour les Aztèques. Alors, il y a une autre photo qui t'a interpellé, Stéphanie, je crois. Dans cette comunidad de la CIPEC, donc cette photo avec la voiture.
Ah, la coccinelle.
Non.
Oui, non, mais c'est sûr que c'est une photo de 2015 et je vois la voiture que ma mère a roulée dans les années 70. Donc apparemment, enfin, les voitures qui ne sont plus utilisées en Europe, en Occident, sont très, très fortement utilisées. Enfin, je le déduis parce que je le vois à l'image, mais tu m'en diras plus, toi qui vis au Mexique, en Amérique.
Bah, écoute, oui, en tout cas, sur cette photo, bon, il y a un aspect amusant parce que on dirait que la voiture elle est mise en avant-plan, mais elle est un petit peu floutée. Je sais pas, enfin, il y a un truc intéressant, je pense, là-dedans. Alors que dans le fond, on a une cabane hein, qui elle est nette. Et finalement, bon, on a l'impression qu'elles vont bien ensemble quelque part parce que la voiture est quand même un peu amochée. Hein, son capot, ben, il y a des éraflures blanches. Voilà, on sent qu'elle n'est pas toute neuve. Mais bon, on devine quand même qu'elle roule. Hein. Il y a encore son rétroviseur qui brille presque. Hein. Et cette cabane dans le fond. Donc voilà, finalement, il y a une espèce de mélange d'éléments comme ça assez intéressant, je trouve, dans cette photo. Et oui, en effet, les coccinelles, bah, elles sont encore utilisées au Mexique parce qu'on a un art de la préservation des choses au Mexique. On recycle énormément. Hein. Il y a des gens qui passent dans la rue pour dire que voilà, ils travaillent le fer et que si vous en avait besoin, ben, il est là, vous pouvez le payer contre une petite somme et il vous réparera votre ventilateur, hein, je donne un exemple, mais il y a aussi celui qui s'occupe des chaussures, donc voilà, il passe tour à tour, je crois que Hubert a envie d'en mentionner un troisième, j'ai l'impression, ça y est, il est dans le voyage avec nous là.
Alors moi, pour m'être renseigné justement, parce qu'il y a beaucoup de coccinelles au Mexique, ce ne sont pas les carcasses européennes. Il y avait la dernière usine de coccinelles en fonction, c'était au Mexique. Et c'est pour ça que c'est une voiture qu'on retrouve énormément au Mexique. Mais c'est, je ne pense pas en tout cas qu'il y ait des carcasses qui voyagent de l'Europe au Mexique.
Pour répondre à Stéphanie ?
Voilà.
D'accord. Non, en effet, il y avait une usine à Puebla, une grosse usine Volkswagen à Puebla. Et ils en ont produit jusque très tardivement.
Voilà, tout à fait.
Voilà. Donc voilà donc pour ce petit passage sur le Guerrero. Je pense qu'on va continuer avec une musique.
Alors, effectivement...
discothèque.
Alors moi, jeune belge de 15-16 ans qui commence à sortir, c'est dans les années 70. Hein, moi, je ne suis pas du même âge que Emeric. Et les danses en groupe et les danses de couple ont tendance à disparaître hein, dans les années 70. Mais il y a une musique qui se danse en groupe et... avec laquelle, qui nous permet de faire un bisou aux filles, puisqu'on peut inviter une partenaire, ou inversement, enfin c'est surtout les hommes qui peuvent inviter, ça s'appelle La Bamba, et cette chanson, c'est une première saveur d'Amérique latine, d'abord on ne sait pas très bien que c'est le Mexique, mais on sait que c'est l'Amérique latine, c'est chanté en espagnol, Et donc, c'est pour moi le premier imaginaire latino-américain, c'est cette fameuse bamba qui donnait déjà un côté assez érotique à l'imaginaire qu'on pouvait se faire de l'Amérique latine. Je vous propose ici une version tout à fait contemporaine, moderne. Enfin, on revient aux racines, aux roots, donc comment était jouée la bamba vraiment dans les origines, même avec la mâchoire d'âne, hein, vous allez entendre la mâchoire d'âne qui résonne dans ce morceau. C'est un groupe d'immigrants mexicains qui habitent à Los Angeles et qui vous fait aussi, quelque part, la manière roots aussi, c'est dans les paroles, où il y a une espèce de duel, c'est pas les paroles exactes de la bamba, chacun y va de son couplet pour essayer d'être plus fort que l'autre. On écoute donc Las Cafeteras avec la Bamba Rebelde.
Présente De l'autre côté du charco, une émission inspirée du livre du même nom.
Casanga del triste día.
Toujours sur Radio Panique 105.4 FM, l'émission Djiboutique, et on vous emmène au Mexique à partir de ce livre, donc de l'autre côté du Charco. Alors, du Guerrero, où on était, la capitale, eh bien, nos auteurs se sont promenés et sont allés plus vers le sud, sur la côte, et ont découvert des villages. Parfois, ils sont allés un petit peu au gré du vent, on va dire, et ont découvert des villages, en fait. Et d'ailleurs, ce ne sera pas qu'au Guerrero, il y en aura aussi à Oaxaca, au Chiapas. C'est un aspect qui les a interpellés. Et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs posé cette question. J'ai essayé d'avoir un peu plus d'informations à ce sujet. Et on écoute donc Pachi Belzaiz.
Notre centre d'intérêt, effectivement, il est parti des Zapatistes au Chiapas. Il a été aussi porté, en tout cas, dans tout ce sud du Mexique, autour de la capacité, d'organisation, de conception du monde qui a à voir avec la communauté. Tu évoquais Georges Lapierre tout à l'heure, qui a fait la préface du livre. Bon, Georges Lapierre, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis de nombreuses années et qui a été pour nous aussi celui qui a un peu amené la notion de communalité en francophone, en langue française, quoi. Et puis la FET, c'est un des trois piliers de la communauté, avec l'assemblée communautaire et le travail communautaire. Le troisième pilier, c'est la FET, parce que la FET, c'est effectivement le moment où on sent qu'on fait communauté. C'est un mode d'organisation aussi qui est quand même assez singulier et qui a l'image en fait de ce que peut être le faire communauté, avec la notion de charge de le faire pour la communauté. Et du coup, c'est quelque chose qui nous a assez interpellés, assez rapidement, quoi. Parce que les premières fêtes où on a été invités, c'est quelque chose qu'on perçoit beaucoup dans les discussions. Alors ça se voit peut-être pas forcément comme ça visuellement, par exemple, à travers l'image, ça se voit pas forcément, mais derrière, en fait, c'est la fête, il y a toute une forme de résistance, en tout cas que nous on perçoit comme une forme de résistance, que ce soit au monde marchand ou que ce soit aussi à la volonté de diviser des communautés, ou en tout cas de leur faire perdre leur sentiment de communauté. Là, je pense notamment par rapport à l'intrusion des partis politiques dans de nombreuses communautés au Mexique, qui a vocation bien souvent justement à créer la division, l'intérêt particulier, partisan, dans une façon de penser, en fait, qui est, on va dire, essentiellement autour du bien commun, du bien pour la communauté. Et ça, au moment de la fête, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup à travers la participation de tout le monde, la façon dont c'est financé avec le principe des majordomes, avec la fierté la fierté. On peut dire que les familles qui, telle année, sont vraiment en charge des parties importantes, comme de fournir la nourriture ou de payer les groupes de musique, on sent qu'il y a quelque chose qui contribue en tout cas à maintenir le sentiment communautaire et par là même la capacité de résistance.
La danza de los diablos, au cœur de la Costa Chica. Plus qu'une fête, une tradition séculaire où le passé négrier revient hanter ceux qui veulent l'occulter. Tout rappelle la terre des ancêtres, la danse tribale, les masques d'inspiration africaine. Chaque année, elle a lieu les 1er et 2 novembre, jour des morts, si important au Mexique. Pendant 2 jours, les diables prennent d'assaut la petite ville de Coajiniquilapa, la Perla Negra del Pacífico. Thank you. Il est midi. Le soleil est en feu. Les rues de Kwahi sont comme une antichambre de l'enfer. Au moins, les diables ne seront pas dépaysés. Des cris, des grognements, les diables trépignent d'impatience. Le diable major ou Tenango, sorte de caporal chef des diables, porte un masque et des jambières viriles. À ses côtés, la Minga, un homme travesti en femme, exhibe un masque à la peau claire. C'est l'épouse du diable, le couple originel à la sauce mexicaine. Le Tenango fait claquer son fouet, sèchement. La Minga applique en roulant exagérément les fesses. Sa grande jupe colorée volette. Elle ondule et tourne autour des diables. Lascive, elle fait claquer son fouet. Deux files de diables se forment. Ils sont de tous âges, de toute taille, tous vêtus de noir. Leurs masques prennent vie. Ils sont effrayants et attirants à la fois. Depuis quelques années, les diablesses ont fait leur apparition. Par le passé, les femmes étaient interdites au prétexte que la danse était physiquement éprouvante. Aujourd'hui, elles dansent, elles éructent la colère de leurs ancêtres, au même titre que les hommes. Deux jours, les diables danseront pendant deux jours, sous un soleil brûlant, indifférent à l'effort. Une danse d'endurance pour honorer les morts. Plusieurs groupes se partagent la ville. La Perla Negra entre dans la danse avec jeunesse et bonne humeur. Sa Minga porte un masque au visage noir. Peut-être une réincarnation de l'esclave Yanga, héros de tout un peuple. Los Quijleños, facétieux et énergiques, prennent leur lait. Ceux du barrio de la Iglesia portent la tradition. Un groupe de tout petits, los chilaquiles, à peine 10 ans, déjà passeurs de la danse de demain. Chacun danse ses morts à sa manière. Chacun rythme ses propres traumas communautaires. Cette fête revendique l'héritage des ancêtres et permet de s'affirmer comme afro-mexicain. Un pied de nez à ceux qui croyaient les avoir anéantis. La danza de los diablos est une danse de tous les diables. Et en voyant des tout petits reprendre les pas, imitant leurs grands frères, on se dit que cette tradition durera encore bien longtemps. Un peuple qui sait conserver sa culture, qui sait danser sur sa mémoire, est un peuple vivant.
Entrale negra bonita, vente conmigo a bailar. Entrale negra bonita, vente conmigo a bailar. Esta linda chilenita que te voy a dedicar, pero cuida tu boquita, no te la vaya a besar. Ándale chiquita, que te quiero mamacita.
Toujours sur Radio Panique, donc vous voulez entendre encore un extrait de ce livre de l'autre côté du Charco. Alors avant ça, Pachi nous parlait donc de la fête, de l'importance de la fête, de Georges Lapierre qui a écrit la préface du livre et qui a aussi participé beaucoup au site qui s'intitulait La Voix du Jaguar avec des articles de fond. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle La Voix du Jaguar qui parle de la résistance à Oaxaca, dans l'état de Oaxaca en 2006 par là. Et le livre est dédié aussi à quelqu'un qui est mort il n'y a pas très longtemps, Mark Thompson, qui allait aussi au Mexique régulièrement et qui a beaucoup réfléchi autour de cette question de l'autonomie. Donc, comme vous l'avez entendu ici, on parle d'une région où la présence noire au Mexique était plus importante qu'ailleurs, et donc ça a laissé des traces. Et ces gens ici dont on parle perpétuent donc cet héritage noir, cette histoire. On parle des cimarrones, les esclaves qui se sont échappés et qui préservent leur tradition. Et donc, je crois que tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet, Stéphanie.
Oui, en fait, je trouvais que c'était vraiment une fête très importante. C'est donc la danse de rébellion. Donc, c'est Diable, comme ils s'appellent eux-mêmes, je pense, semble vraiment montrer aux colons, qui persistent finalement aussi, en tout cas la pensée colonialiste n'a pas disparu. Donc, ils montrent aux colons qu'ils n'ont conquis que les corps, mais leur âme d'esclave est restée libre. C'est ce que j'ai lu dans le livre et ce que je voulais ajouter parce que cette idée de liberté de l'âme me plaisait bien. Et donc, voilà, de par leur danse diabolique, ils peuvent vraiment aller à l'encontre de cette pensée colonialiste.
C'est ça, comme tu dis. Et qu'ils ont conquis que les corps, donc, hein, parce qu'on pourrait penser cœur, mais non. Corps.
C'est tout à fait ça. Et par rapport aussi à cette idée de fête qui est vraiment omniprésente au Mexique, il y a le grand poète Octavio Paz qui a écrit quelque chose que j'aimerais lire, c'est juste quelques lignes. « Tout communique, le bien se mêle au mal, le jour à la nuit, le saint au maudit. Tout cohabite, perd sa forme, sa singularité. » Et retourne à sa matrice originelle. La fête est une opération cosmique, l'expérience du désordre, la fusion d'éléments opposés pour provoquer la renaissance de la vie.
Voilà. Octavio Paz, donc.
C'est ça.
Eh bien, merci. Alors, encore une fête avant d'arriver à la fin de l'émission. On parle du carnaval de San Juan Yolotepec. On écoute donc un autre extrait qui est lu. Vous êtes donc sur Radio Panique, le carnaval de Yolotepec.
San Juan Yolotepec, YOLO pour les intimes, est au cœur de la montagne mixtèque. Les noms des sommets évoquent la mythologie locale. Cerro del Tigre, Cerro Emplumado, ces lieux sacrés, pleins de légendes, ne sont pas qu'un simple décor. Ils sont partie prenante de la fête. Chez les Mixtecs, le rapport à la nature compte autant que le rapport à la communauté. Nous déambulons dans ce minuscule village, aussi discret que des éléphants dans un magasin de porcelaine. Les sourires, les petits mots échangés nous accueillent de la meilleure des façons. Uriel nous interpelle en anglais depuis sa maison et nous propose un soda. Il a le sourire immense de ceux qui ont souffert. Il a passé 8 ans aux États-Unis pour travailler dans les champs. Il est de retour depuis 3 mois et vit dans la maison de sa mère. Il piaffe à l'idée de ce premier carnaval après cette longue absence. Uriel nous explique que les jeunes du village sont nombreux à tenter l'exil. En Californie, à la même date, un petit groupe de migrants de la région organise un carnaval pour perpétuer la tradition mixtèque chez les gringos. À l'époque préhispanique, le calendrier solaire de 365 jours se composait de 18 mois de 20 jours, soit 360 jours, auxquels s'ajoutaient 5 jours inutiles, qui étaient jours de fête. Par une pure coïncidence, le carnaval mixtèque contemporain tombe en février. On en retrace difficilement l'histoire. Les vieux racontent qu'au début du XXe siècle, des villageois partis travailler du côté de Veracruz sont revenus fort troublés par les fêtes qu'ils y avaient vues, et tout particulièrement par les costumes. Ils s'en seraient inspirés pour créer leur propre carnaval. Un quasi-centenaire nous raconte que le carnaval existait déjà quand il était enfant. Selon certains, il aurait été créé en 1911. Mais quelle importance ! Les règles, elles, ne font aucun doute. Personne ne peut y déroger. Le majordome et son équipe, choisis l'année précédente, en sont les garants. Un honneur et une charge à la fois. Les héros du jour sont les Chilolos Nuevos, les jeunes et leur aîné, les Chilolos Viejos. Le jour J, ils s'affrontent par la danse, de l'aube jusqu'à 10 heures du soir, heure de la mort où on désigne le majordome de l'année suivante. Tous les Chilolos doivent danser jusqu'au bout, jusqu'à la mort, hasta la muerte. Les musiciens sont les maîtres guides de la fête, tel Don Lucas, petit bonhomme aux yeux rieurs, sous un immense sombrero blanc. Il a 73 ans, dont 58 comme flûtiste. Il a formé la plupart des musiciens du carnaval. Tout le village vient le saluer ou lui taper amicalement dans le dos. Mais pour lui, seul compte la flûte qu'il porte à sa bouche, heureux comme à 15 ans. Comme une belle histoire d'amour qui ne prendrait jamais fin. Les femmes ne sont admises au carnaval que depuis une dizaine d'années. On invoquait la fatigue et la violence de la danse, où on prend parfois des coups involontaires. Il se dit aussi que certaines n'avaient pas attendu d'autorisation pour se déguiser en chilolo. Un déguisement peut en cacher un autre.
Voilà, un autre extrait donc de ce livre de l'autre côté du charco dont la présentation se fait en deux volets. Vous aviez écouté aujourd'hui le premier, le deuxième ce sera pour la semaine prochaine. Dire aussi donc que le livre dont on vous a parlé aujourd'hui, il est disponible à Radio Panique pour les membres. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à passer ici et à le feuilleter, jeter un petit coup d'œil. C'était donc l'émission Djiboutique, on avait Steph Bodine en direct, Stéphanie Bodine, qui est donc productrice de cinéma documentaire et pour la lecture des textes, Odile Van Steenwinkel, Hubert à la technique, Emeric présentation. Et donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien. Bonne écoute en tout cas sur le 105.4.
Alors on va se quitter en musique et il faut se remémorer les années 90 où le Buena Vista Social Club fait un énorme boom et donc tous les producteurs ont compris que les musiques du monde commencent à être populaires et donc ils vont signer à tour de bras tous les groupes qui trouvent dans les pays, surtout latino-américains, puisque Buena Vista Social Club, ils sont cubains. Et au Mexique, il y a quelques groupes comme ça qui ont la chance de pouvoir tourner, de pouvoir être produits et distribués en Europe. Il y a entre autres Los de Abajo, mais surtout le groupe rock mexicain qui s'appelle Osomatli. On écoute la chanson « Gallina ».
Gallina.